on avait vu qu'à Yom Kippour, quand Hachem a pardonné, il a, ce pardon s'est exprimé de trois manières. Vous vous souvenez? D'abord, Hachem a redonné, il a donné le deuxième louchot. Et ensuite, il a donné un deuxième exemplaire du Shem Hashem, donc du tétragramme. Et il a donné les Shloshesre Midot, les 13 mesures de tendresse, de miséricorde, comme certains disent. Donc il a donné les... Vous vous souvenez, je crois que j'ai expliqué que pourquoi est-ce qu'il fallait donner un deuxième exemplaire du Shem Hashem, c'est parce que le premier qui fait exister les choses ne faisait exister que jusqu'à la faute. Quand tu fais une faute tellement grave comme le veau d'or, le ticket est plus valable. Donc il fallait nous donner un deuxième exemplaire du Shem Hashem qui nous fasse exister. C'est pour ça que dans les Shloshes Remidot, on dit deux fois Hachem. Hachem, Hachem, quel rachum le chanon. Pourquoi on dit deux fois? Parce que la première occurrence, c'est l'ifne achet. Ça vient pour faire exister avant la faute. Et la deuxième fait exister même des gens qui ont fauté. Alors, on peut se disqualifier, mais Hachem, ce deuxième nom divin, il permet de continuer de vivre. Ça donne des possibilité de faire tshuva, etc. Et puis les Shloshes Remidot, 13 mesures, donc mentionner ces 13 mesures de tendresse, c'est-à-dire faire appel à la tendresse divine, au rachamim, à la tendresse qui est du type de la tendresse d'une mère pour son enfant. Puisque Rachamim s'est construit sur le mot Rechem, qui veut dire la matrice, qui veut dire l'utérus. Alors bien sûr que quand on parle d'Hachem ou quand on parle des hommes, ce Rachamim, il existe chez les hommes, et celui-là, il est construit, il vient pas du fait même que l'enfant est le produit des entrailles il vient des entrailles de sa mère. Et donc, quand on parle du Rachamim, de Rachamim, mais qu'on parle des hommes ou qu'on parle d'Hachem, il s'agit d'une construction, d'une certaine tendresse. Et comme on sait, cette tendresse, c'est quelque chose qui va permettre de gagner du temps, par exemple. Quand Akadosh Baruch Hu a ajouté la tendresse à la Midat Hadin quand il a créé le monde, il a ajouté la tendresse, ça veut dire qu'au lieu que la Midat Hadin s'applique de façon complètement rigoureuse, c'est-à-dire tu fautes, tu meurs. Alors ici, c'est tu fautes, tu meurs, mais entre les deux, il y a du temps pour pouvoir faire tshuva, pour devenir un autre, et pour que, à la limite, cette faute qui a été commise, c'est une faute qui a été commise par X. Et il n'y a plus personne pour assumer cette faute. Parce qu'on a fait tshuva et qu'on est devenu autre. Donc ça, c'est le rachamim. Mais quand Hachem a donné ses mesures de Rachamim à Moshe Rabbeinu, il les lui a donné d'une façon bien précise. Il lui a dit, quand les Bnei Israël fauteront, donc il s'agit d'une faute qui est vue comme une faute du clan Israël. On ne parle pas des fautes individuelles ici. On parle des fautes du clan Israël. Alors, bien sûr, tout le monde appartient au clan Israël, donc ça rejaillit sur nous, mais on parle ici d'une faute, d'un tzibour. Alors, tu désigneras un shaliach tzibour. Tu désigneras quelqu'un qui va être envoyé par le tzibour, comme on envoie, nous, pour Machaliar Sibo, qui est Chazan, si vous voulez. Et il lui a, mon cher ami, il avait un peu de difficulté, alors Hachem lui a montré, dans le ciel, sous forme de, d'image de feu, probablement, et il lui a montré Machaliar Sibo avec son talit sur la tête, et ce Machaliar Sibo, il va réciter les 13 midot de Rachamim, et Hachem dit, moi je pardonnerai. C'est un peu étrange, parce qu'on a l'impression que voilà, qu'est-ce que c'est un peu une espèce de truc automatique, un petit peu comme un moulin à prière, quoi. Voilà, on désigne quelqu'un qui représente le tzibour, et puis il déroule les shloshet midot, et voilà, automatiquement on est pardonné. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça. On va regarder aujourd'hui. Je pense que tous ces différents éléments dans cette image que Hachem a montré à mon cher Abénou, je vais étudier avec vous un enseignement de Rav Chaim Friedlander, qui était un mashgiach de la yeshiva de Ponivesh. C'est un des deux grands élèves de Rav Dessler, un de ceux qui ont plus ou moins rédigé le Miftah Me'eliyahu, lui et Rav Carmel. Alors voilà ce qu'il dit. D'abord, Moshe Rabbeinu avait demandé à Hachem, il avait dit, « Ve'ata imna matzati chen be'enecha » Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, dit Hachem, dit Moshe Rabbeinu à Hachem, « Odienina et drachecha » Fais-moi connaître, s'il te plaît, tes voies, tes chemins. Vedaacha, comme ça je te connaîtrai. Leman emtsachen be'enecha, afin que je puisse vraiment trouver grâce à tes yeux. C'est-à-dire, je saurai comment tu veux que je me comporte. Alors, cette demande de Moshe Rabbeinu pour connaître les voies d'Hachem, bien entendu, Moshe Rabbeinu l'a pas demandé pour lui. C'était pas pour que lui devienne plus chacham. C'est pas pour augmenter sa chokhma. Il l'a dit lui-même pourquoi il le voulait. Le man emtsachen be'enecha. Afin que je trouve grâce à tes yeux. Alors, vous pourriez dire, mais quand est-ce que Moshe Rabbeinu dit ça? Moshe Rabbeinu dit ça après qu'Hachem lui a dit, Hachem lui a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors maintenant, lui vient et demande pour que je trouve grâce à tes yeux. Alors évidemment, ça vient dire qu'il y a de nombreux degrés de grâce qu'on peut trouver aux yeux d'Hachem. Hachem lui a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et mon cher Abenu, il sait très bien qu'il y a des degrés et qu'il voudrait monter et trouver encore plus grâce devant Hachem, et pour cela, il voudrait qu'Hachem lui dévoile ses chemins. Comment est-ce que tu veux que je me comporte, en fait? Donc, et pourquoi tout cela? Ben, pour faire plaisir à Hachem, en fait, pour faire ce qu'Hachem demande. Voilà. Donc, ça c'est le sens de la demande qu'il a posée à Hachem. D'une certaine manière, c'est quelque chose qu'Hachem lui-même veut. Hachem veut que nous le connaissions, que nous réfléchissions et que nous le connaissions pour pouvoir trouver grâce à ses yeux, pour faire plaisir, si on peut parler comme ça, par rapport à Hachem. C'est ce qu'Hachem veut, en fait. Il y a Bassouk dans Irmiya qui le dit. Et maintenant, la question qui se pose plus précisément, c'est pourquoi est-ce que pour mieux trouver grâce aux yeux d'Hachem, Moshe Rabbeinu pense que ce sera en connaissant les voies d'Hachem. Et effectivement, Comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est de cette manière-là qu'Hachem, en fait, dit Be'ele Chafatsti, c'est-à-dire c'est ce que je veux. Je veux que vous connaissiez, vous me connaissiez, en fait. Les choses sont en vérité explicites dans le pasouk lui-même. Hachem lui a répondu, Vayomer, ani avir kol tuvi al panecha. Moi, je ferai passer toutes mes bontés devant toi, c'est-à-dire toutes les midot du tov d'Hachem. Tu vas voir tout ça. Vekarati veshem Hachem lefanecha. Hachem lui-même, il dira, Hachem qui dit, je vais dire mes noms. Hachem a beaucoup de noms, c'est-à-dire les midot. Je vais les énoncer devant toi, ces midot de Rachamim. Je vais les énoncer devant toi. Et quand je les aurai énoncés, je les fais passer devant toi. De cette manière, mon cher Rabbeinu, tu les connaîtras. Connaîtra les midot de Rachamim, et la conséquence, ce sera, Chanoti et Asher Achon, je ferai grâce à qui je ferai grâce, dit Hachem. C'est-à-dire, de cette manière-là, tu trouveras grâce à mes yeux, ou les Bnei Israël en général trouveront grâce à mes yeux, et c'est ça la raison pour laquelle mon cher Rabbeinu voulait connaître les voies d'Hachem. Connaître les voies d'Hachem. Alors, pour résumer ce qu'il a dit ici, c'est, Hachem dit, je vais faire passer toutes mes midot. Alors, une mida, c'est une mesure. Alors, bien entendu, Hachem n'a pas de mesure. Il n'a pas de midot. Mais Hachem gouverne le monde. Et il gouverne le monde de telle ou telle manière, dans certaines circonstances. Il gouverne comme ceci, et dans d'autres, il gouverne autrement. Et ces différentes façons de gouverner, c'est ça que nous on appelle des midot. On dit que c'est des midot d'Hachem, mais ça ne nous dit rien du tout sur Hachem. C'est simplement une connaissance qu'il nous donne de la façon dont il nous gouverne. Et pourquoi est-ce que c'est important qu'il nous le dise? C'est pour que nous sachions que c'est bien de se comporter de cette manière-là. Les choses, elles ne viennent pas nous raconter, on ne vient pas faire de la théologie ici, pour savoir quelque chose sur la divinité qu'on ne peut pas savoir de toute manière. C'est, quand on dit Hachem fait comme ceci ou comme cela, c'est pour nous dire de se conduire de cette manière-là, c'est bien. C'est ce qu'Hachem veut. Donc, Moshe Rabbeinu, il voulait qu'Hachem lui dise comment se comporter. Alors, Hachem a dit, voilà, je vais faire passer les midot. Fait le film de toutes les midot, de toutes les façons de gouverner, je dirais à quoi elles correspondent, à quel nom divin ou à quelle expression elles correspondent, comme nous disons, Kel, Rachum, Chanoun, etc., Erechapaim, tous ces mots-là, qui sont des midot d'Hachem, des façons avec lesquelles Hachem gouverne le monde. Ça, c'est ce qu'Hachem a montré à Moshe Rabbeinu. Rachi dit, Hachem a dit, Ani a avir kol tuvi. C'est-à-dire, Hachem lui a dit, je vais faire passer, moi, toutes mes bontés. Alors, Rashi dit, Igia sha, c'est-à-dire, la réponse qu'Hachem donne, c'est une réponse, qui est, engendré par la tchouva des Bnei Israël sur la faute du Hegel, sur la faute du Vaudor. Vous allez voir ma gloire, dit Hachem, c'est-à-dire plus exactement ce que je vous permettrai de voir, ce que je veux que vous voyiez maintenant, c'est-à-dire je veux que vous appreniez le lamedra seder tfila. Je vais t'enseigner comment on prie. Dans la prière, il y a toujours une demande. Les prières, elles sont toujours des demandes. Ani avir kol midat tuvi lefanecha, c'est-à-dire, je vais vous faire du bien, mais c'est comme ça qu'Hachem a organisé le monde. Ce bien, il pourrait nous le faire sans qu'on fasse rien du tout. Hachem nous fait du bien, mais il nous demande de le demander. Je vous donnerai le bien que vous allez demander. Mais demandez-le. Parce que le demander à Hachem, c'est une façon de reconnaître Hachem. Bien sûr qu'Hachem sait mieux que nous ce dont nous avons besoin et qu'il peut nous le donner même si on ne demande rien du tout, mais c'est pour nous, pour que nous fassions quelque chose, en fait, dans ce sens, pour que nous apprécions la chose. Effectivement, il nous demande de le demander. Karati b'shem Hashem lefanecha. Je vais appeler le nom d'Hashem devant toi. C'est Hashem qui parle à Moshe. Il dit, je dirai le nom d'Hashem. C'est son nom. Il dit pas Shmi. Parce que c'est quelque chose de très haut qui parle du nom divin, en fait. C'est pour nous dire, Seder bakashat rachamim af im tichle srutavot. Ici, il explique que, Rashi explique que, vous savez, il y a ce qu'on appelle srutavot. Il y a ce qu'on appelle le mérite des avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov, les avot, ont servi Hachem, et ils se sont acquis des mérites. Et ces mérites-là, ils font en sorte que les Bnei Israël puissent en profiter. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que nous, on peut bénéficier de mérites que eux ont acquis? Bon. Est-ce que c'est, je sais pas, les mérites qu'ils ont acquis? Ils les ont acquis parce qu'ils ont acquis des bonnes midotes. C'est quoi les mérites qu'eux ont acquis? Ils ont acquis des bonnes midotes. Et quelque part, c'est comme si on disait, voilà, c'est comme s'il y avait en fait une hérédité des caractères moraux acquis. Les caractères, comme on dit, les Bnei Israël, ils ont des caractères qui ont été acquis par les Avot. Et ça s'appelle Srut Avot. C'est une quantité de mérite, en quelque sorte. Et la Gemara, elle dit que le Srut Avot est épuisé. On a tellement tiré sur la corde qu'on a épuisé le mérite des Avot. Et maintenant, je t'enseigne que les Bnei Israël, comment est-ce qu'ils vont faire maintenant s'ils ont plus de mérite? Alors je t'enseigne comment ils vont faire s'ils continuent de fauter et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir en évoquant, en payant en quelque sorte avec les mérites des Avot, il n'y a plus. C'est-à-dire on a épuisé le stock. Alors Hachem va montrer à Moshe Rabbeinu comment il faut prier dans une situation où on peut plus compter sur Srut Avot pour qu'Hachem nous pardonne, etc. Pour trouver grâce aux yeux d'Hachem. Hachem va dire, voilà, comment vous allez faire? Et moi, je répondrai. Je vous répondrai. Je vous ferai grâce. Alors, c'est comme Chazal disent dans la Gemara dans Rosh Hashanah, Chazal disent Vayavor Hashem al panav vayikra. C'est comme ça que nous on introduit les Shlosh Esrei Midot qu'on va dire. C'est-à-dire Hashem a passé devant le visage de Moshe et il a lui-même vayikra et il a crié, il a dit là-dessus, ça c'est le pasuk. La Gemara Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, il m'allait, mikra, katouf, si on n'avait pas un pasouk pour dire une chose pareille. I efchar le omro. On peut pas dire la chose suivante. On peut pas dire que ce qui s'est passé, c'est que, je vous ai dit, que Hachem a montré une image d'un shliach tzibour. Mais Rabbi Yochanan, il dit plus que ça. Mais il dit, c'est tellement énorme que si j'avais pas un pasouk, j'oserais jamais dire une chose pareille. Melamed, shenitatef akadosh baruch hu kishliar tzibur. Qui est le shliar tzibur que Moshe Rabbeinu a vu? C'est Hachem lui-même. C'est Hachem qui s'est enveloppé dans un talit, comme un shliar tzibur. Vehera lo, et il a montré à Moshe Rabbeinu, seder tfila. Il lui a montré comment on prie en période d'après Vaudor, Tshuva, mais après épuisement du mérite des Avot. Alors il lui a dit, donc, Kozman, ce que je vous ai dit, Kozman chez Israël Chotin, quand les Bnei Israël vont fauter, Yahasu le Fana et Kesederazé, Vani Mochel Laem. Donc, les Bnei Israël font comme ça, c'est-à-dire un Shliar Tzibur, etc. Et moi, je leur pardonnerai. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu Itatef que Shliar Tzibur. Akadosh Baruch Hu s'est enveloppé. Le Itatef, c'est le terme qu'on utilise, nous, dans la bracha sur les tzitzit. Le Itatef be tzitzit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, après, ici, Friedlander explique que moi, Shliar Tzibur, bayamim akadmonim. C'est comme le faisait le Shliar Tzibur dans les temps anciens. Sheayam mitpalel bekol ram. Vatzibur acharav kedei lelamed et elu shelo yadu leitpalel. Kacha kadosh baruch hu limed. Ve'idgim le Moshe. Hashem a enseigné et il a montré le modèle à Moshe Rabbeinu. Ech leitpalel, il lui a montré comment prier. Mais echan lamdu zot chazal. La question qui se pose, c'est, Rabbi Yochanan dit, s'il n'y avait pas un pasouk, on n'oserait pas dire ça, mais même avec le pasouk, d'où est-ce que les chachamim ont eu le courage de dire une chose aussi énorme? Hachem lui-même s'est représenté en Shliar Tzibur. Alors le Maharal répond. Le Maharal explique, Bipnei Shekatuv, c'est marqué dans le pasouk, Vekarati Beshem Hachem Lefanecha. Bon, dans le verset qu'on a lu, Hachem a dit, Vekarati, je vais faire passer devant toi toutes mes bontés, Vekarati, Beshem Hachem, Lefanecha. C'est Hachem qui parle. Et je vous ai fait remarquer, c'est Hachem qui parle et il dit Vekarati Beshem Hachem. Hachem lui-même dit, je dirai, je crierai le nom d'Hachem. Hachem aurait dû dire, il est en train de montrer à Moshe ce qu'il faut faire. Donc, il aurait dû lui dire, non pas Vekarati, mais il aurait dû dire, Tikreu le Fanaï. Voilà comment vous allez, vous, prier devant moi. Mikan, de là, Rabbi Yochanan a dit, Akadosh Baruch Hu kara ve'idgim lifnei Moshe, ech aleinu la'asot kedei sheimachel lanu. D'accord? Donc, Hachem a montré à Moshe Rabbeinu comment il fallait faire pour qu'Hachem nous pardonne. Vous savez quoi, Hachem pouvait pas lui montrer une image de quelqu'un, Hachem, c'est bon, non, payer de sa personne. C'est toujours cette même idée, ce que je vous ai dit avant. Ce qu'on appelle des midot d'Hachem, c'est pas qu'Hachem il a ces midot là. C'est qu'Hachem se conduit de certaines manières, et dire que Hachem se conduit de cette manière là, ça veut dire, sachez que c'est comme ça qu'il faut se conduire. En vous conduisant de cette manière-là, on pourrait dire, vous vous conduisez divinement. Divinement parce que vous vous conduisez exactement comme le divin vous demande de vous conduire. Alors, il y a quand même un détail ici qu'il faut comprendre. Qu'Hachem nous est enseigné qu'est-ce qu'il faut dire. Hachem, Hachem, quel rachum lechanou. Ok. Mais pourquoi on nous dit que il s'est mis la talit sur la tête comme un shkert sivou? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu devait entendre et qu'est-ce que nous devons entendre sur la façon dont les choses doivent se faire? C'est quoi cette histoire de s'envelopper? C'est toujours le Maharal. Le Maharal dit chez Adam, l'homme, au moment où il prie, mitatef betalit, mechase et rocho, il s'enveloppe dans son talit, il couvre sa tête, kedesh lo yabit litzdadim, afin qu'il ne regarde pas à gauche et à droite, viafri alo litrakes, ou le chaven karaoui. Parce que si il peut regarder à gauche et à droite, alors ça va l'empêcher de se concentrer, ça va l'empêcher de diriger sa prière comme il doit le faire. Donc quelque part, c'est se mettre des œillères pour ne pas voir, pas regarder ailleurs. C'est ça la fonction du talit. C'est se concentrer. Bon. On sait très bien qu'on ne prie pas de la même manière si on a un talit qui nous oblige à nous concentrer éventuellement. Tout ce qu'on voit dans notre champ de vision ici, c'est le sidour qui est devant nous. C'est tout. Si on voit d'autres choses, la concentration, elle laisse à désirer. Et donc, on ne prie pas exactement comme il faut. Donc, ça veut dire que le itouf, cette idée de s'envelopper, ça représente une totale concentration concernant la direction de la prière qu'on veut donner à sa prière. C'est ça qu'Hachem vient nous enseigner, que c'est sûr, la récitation des 13 midot, elle nécessite qu'on se concentre sur ce qu'on est en train de dire. Le Maharal dit ici, Im ha'adam ma'ayen betfilato. Si l'homme réfléchit à sa prière, mais il ne se tourne pas vers Hachem. Alors, ça ne va pas marcher. Mais par contre, Hachem va réagir exactement de la façon dont dont l'homme réagit. Si lui ne s'écarte pas du tout de sa concentration, alors Hachem se, en quelque sorte, nimtsa elav gam ken legamre. Alors je me sera présent pour lui aussi totalement. Parce que lorsque l'homme se concentre complètement sur sa prière, qui regarde ni à gauche ni à droite, comme quelqu'un qui justement s'enveloppe dans son talit, Hachem, à l'image de ce que fait l'homme, c'est marqué Hachem Tzilcha, Hachem est ton ombre, il fait ce que toi tu fais. À ce moment-là, Hachem est aussi complètement disponible pour lui. Et donc, quelque part, il y a une dimension de dvekut qui peut se faire. Ils sont tous les deux concentrés l'un sur l'autre. Et donc, le Maharal vient expliquer ici qu'il s'agit, dans cette démarche de prière, de se tourner vers Hachem sans se laisser distraire par rien. Et une des façons de veiller à ne pas être, c'est de s'empêcher d'être distrait. Alors bien sûr, on pourrait dire, oui, je vais faire attention de me concentrer. Si tu veux être sûr de te concentrer, alors donne-toi les moyens de ne pas être déconcentré. Dans toute la mesure du possible. Ici, physiquement, c'est une façon de se concentrer. Donc, quand Hachem fait les choses, quand on dit qu'Hachem fait les choses, c'est toujours pour nous dire que c'est ça que nous devons faire également. Il faut évidemment qu'on comprenne que si Hachem dit c'est ça qu'il faut faire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres situations, d'autres moyens d'obtenir ce que nous cherchons à obtenir. Ce pardon, on ne peut pas l'obtenir autrement. C'est pas une option, tiens, on pourrait faire comme ça, mais je pourrais aussi l'obtenir avec, je sais pas, en faisant une autre mitzvah, par exemple. Non. C'est uniquement par la prière et par cette prière-là. C'est la raison pour laquelle, comme on l'a vu la dernière fois, pratiquement toute la journée de Kippour, on n'arrête pas de réciter les Shlosh Esre Midot. Je vous ai dit dans le Nusar Sfarad, si je me trompe pas, on le dit 26 fois dans la journée de Kippour. Durant Yom Kippour, on le dit 26 fois. Les Ashkenazim aussi disent à peu près, ils disent pas des chiffres aussi clairs, mais c'est à peu près la même quantité. Pourquoi on dit ça tellement souvent? Pour être sûr que ça marche une fois, quand même. Comme toujours. Il n'y a pas. Et quand on se concentre là-dessus, parce que ce qui doit nous aider, c'est de savoir il n'y a pas d'autre chemin. Donc c'est pas optionnel, en fait. C'est pas, on peut faire comme ça, on pourrait faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Maintenant, la question qui va se poser est, et ça, c'est Yan Yud Gimel Midot, 13 Midot de Rachel. Pourquoi est-ce qu'il faut les expliciter? Pourquoi est-ce qu'il faut les dire toutes? Comme Hachem a dit à Moshe, Ani Avir Kol Tuvi Al Panecha. C'est pour ça qu'il a lu les 13 Midot devant Moshe. Pour que nous fassions la même chose dans le détail des 13 Midot. Alors bien sûr, quand on dit, il faut dire ces Midot, c'est un dire qui a l'expression de quelque chose que j'ai compris. Une chose sur laquelle je me suis concentré, j'ai étudié ces Midot dans le détail. Il suffit pas de les mentionner. Il faut en connaître la signification. C'est marqué Askel veyadoa et oti, réfléchis et connais-moi. Ki ani Hashem oseh chesed, parce que moi Hashem, je fais du chesed, etc. Ki be'ele chafatzti neum Hashem, dit le pasuk. C'est ça que j'aime, c'est ça que je désire de votre part, dit Hashem. Et en fait, les anciens se sont attachés à expliquer chacune de ces 13 Midot. Il y a un petit sefer, petit par le volume, par le nombre de pages, qui s'appelle Tomer Dvora, parmi le Dvora, de Rav Moshe Cordovero, qui explique chacune de ces Midot. qu'il faut qu'on comprenne pourquoi c'est pas suffisant de savoir les choses en gros, collectivement. On pourrait dire simplement, Hachem, il est merachem. Hachem, il est tendre à notre égard. Nous, dans la tfila quotidienne, nous disons « Atov, kilo chalou achamecha ». Atov, c'est Hachem qui est bon. Son rachamim est sans fin. Et on n'a pas détaillé les midot de rachamim. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se contenter là aussi de dire les choses de façon générale? Le Nefesh HaChaim, il dit à ce sujet que dans la prière, il faut diriger sa prière et penser à ses midot, justement. On sait, les kabbalistes, ils appellent ça des sphirot. Dans les Sfarim, Abdoshim qui parle des kavanot de la prière, on explique que les Anshek Neset Agdola qui ont fixé la forme de la prière, ont choisi les termes de la prière. Ils ont fait leur choix de telle sorte que chaque mot dans la prière correspondent à l'amida et la gouvernance spécifique d'Hachem. Mais d'un autre côté, nous savons très bien, et le Nefesh HaRaim le répète, qu'on n'a pas le droit de prier à une des midot quelconque. On ne peut prier qu'à Hachem. Vous savez très bien que, y compris par exemple dans les korbanot, il n'y a pas de korban pour Elohim ou korban pour Shakai, etc. C'est toujours korban l'Hachem. Et notre prière, c'est toujours à Hachem. D'accord? On ne prie pas à Elohim ou à un autre nom divin. On prie à Hachem. C'est marqué dans le Passouk, dans le début de Sefer Dvarim, c'est marqué ni donc Hashem Elokeinu bechol koreinu elav. Et comme Hashem notre Dieu, à chaque fois que nous l'appelons. Et là-dessus, il y a un Sifri qui dit que ça veut dire koreinu elav. Nous adressons à lui. Alors le Sifri dit Elav velo milota, el milotav. S'adresser à lui et pas à ses midot, Chas v'Shalom. Et il dit explicitement Kol kavanot libeinu. Toutes les intentions, direction donc, de notre cœur, dans toutes les brachot et dans toutes les prières, ne peuvent s'adresser que à lui, Ein Sof Baruch Hu. Comment on peut s'adresser à lui? On s'adresse à lui en tant que il a décidé, sa volonté est telle qu'il a décidé de se lier aux différents mondes, à tous les olamot, pour prendre ce lachon là. C'est-à-dire, Hachem a décidé de s'occuper du monde, en quelque sorte, de créer un monde et de s'en occuper. Oui, Barach, lui, c'est vrai, il est complètement caché, il est absolument inaccessible au sens incompréhensible par toute la création. Mais il veut sa volonté c'est de diriger le monde qu'il a créé. Et donc tous les noms divins qu'on utilise correspondent à cette volonté qu'il a de gouverner le monde de différentes manières, en gros, d'une manière du type Hesed, d'une manière du type Din, en générosité ou rigueur. Donc, il y a, pour chaque façon de gouverner le monde, il y a des noms divins différents. C'est des noms divins qui veulent dire qu'on envoie une certaine énergie, une certaine lumière, une certaine kedusha, qui vient évidemment de sa source, c'est-à-dire qui vient d'Hachem. Bien sûr que c'est de là que ça vient. Mais HaKadosh Baruch Hu a fait dépendre en quelque sorte le flux de choses qui nous envoie en tenant compte de l'effet que ça aura sur les actions des hommes, chacun en particulier, chacun des Juifs, chacun des membres du Ham Segula, du clan Israël, que ça soit en termes de Chesed, en termes de Mishpat, en termes de Tzedaka, que ça soit un grand impact, un gros impact ou un impact moins gros. Et le Nefesh HaRaim continue et il explique que quand on dit que dans les kavanot de la prière et des brachot, il faut diriger dans chaque bracha une kavana, se diriger vers une kavana spécifique, une sphira spécifique, si vous voulez. C'est-à-dire, une des façons de gouverner le monde qu'a Hachem, grâce au shalom, de penser qu'on prie à la sphira en question. Ce serait de l'idolâtrie. Quand la prière ne peut jamais s'adresser à une sphira. Chazal, il appelle ça couper les kotzet benetiot, c'est couper les plantes. Parce que celui qui prie à une sphira en particulier, c'est comme s'il avait arraché une des plantes de sa racine, puisqu'il a enlevé cette sphira de sa racine. La sphira, elle est enracinée, si on peut parler comme ça, en lui, de Barach. Notre kavana, c'est simplement, on s'adresse uniquement à Hachem. Yachid, Ensof, etc. Celui qui est le maître de toutes les forces, etc. Dont la volonté est de se relier pour des raisons que nous ne connaissons pas. D'une certaine manière, par, à travers une sphira ou une autre, etc., une force ou une autre, et les choses passent par là, de cette façon-là, jusqu'au monde matériel. C'est tel que c'est sa volonté à lui. Donc, l'effet de la prière va aller au bon endroit, mais c'est pas à nous à la diriger. Nous, on l'envoie à Hachem. Ensuite, Hachem, il distribue là où il veut que ça aille, en quelque sorte, si on peut se permettre de dire les choses de cette manière-là. Évidemment, Hachem pourrait agir d'une infinité de façons. Il a fixé, quand il a créé le monde, il a fixé les choses d'une telle de telle ou telle manière. Et un petit peu, de telle sorte que nous puissions connaître un peu ses voies. C'est pour ça qu'il nous les a dévoilées un peu. C'est pour ça qu'il nous a donné les 13 voies en question. Et le Gaon de Vilna explique sur, dans le Tikkun HaZohar, enfin, il explique que on pourrait poser la question, pourquoi est-ce que nous prions à Hachem de plusieurs manières en quelque sorte? Parce qu'on demande dans la prière, on demande qu'il fasse ceci ou cela, etc. Dans les prières quotidiennes, on demande qu'il s'occupe, qu'il agisse ici de cette manière-là, qu'il renforce ceci ou cela. Donc, certaines fois, on mentionne certaines midot. Quelquefois, on a l'air de prier du côté droit, en fait. Chazal disent que Arotzel et Arkim, celui qui veut prier pour devenir sage, il faut qu'il... On prie toujours dans la direction du Yerushalayim, mais tu dévies un petit peu vers la droite. Et d'autres fois, si on priait sur la Parnassa ou des choses comme ça, alors, un petit peu vers la gauche. Et des fois, on demande le rachamim, on demande qu'Hachem ait pitié, etc. Chaque prière est toujours, elle est dirigée pas par nous, mais elle va dans une direction bien précise. Et des fois, nous, on fait des gestes qui vont un peu dans ces directions-là. Et le Gaon ramène la réponse à cette question qui est posée dans les Tikkunei Zohar. Dit que Vadaï, c'est Akadosh Baruch Hu qui, toutes les sphirotes ne sont que des sphirotes d'Hachem en quelque sorte. Il n'y a que lui qui agit les sphirotes. Elles n'agissent pas par elles-mêmes. Quand Hachem veut s'occuper de telle ou telle chose, diriger telle ou telle chose, alors il fait fonctionner la sphira en question. Quand Hachem veut envoyer du chesed dans le monde, ou du rachamim dans le monde, alors il utilise la mida de droite, par exemple, chesed. Des fois, il a décidé qu'il faut envoyer du din dans le monde, alors il utilisera, lui, la mida de gauche, la mida tadin. Et bien entendu, c'est toujours Hachem qui agit. Et le Neveh Sharim termine en disant, c'est ça que les Chachamim ont dit. Mika Hachem Elokeinu bechol koreinu elav, elav velo le midotav. Nous, on s'adresse jamais à ces midot. On s'adresse toujours uniquement à Hachem. Donc, en résumé, il ne faut pas penser, chas v'shalom, que nous prions dans une des sphirotes, une des midotes, bien qu'on parle de ces 13 midotes, on ne prie pas l'une ou l'autre. Comme si ces sphirotes ou comme si ces midotes étaient autonomes. comme si elle pouvait décider de quoi que ce soit. Nous, on prie Hachem. Et c'est lui, on peut même lui demander de faire fonctionner tel ou tel mida, puisque quand on lui demande d'avoir pitié ou d'envoyer la refoua ou d'envoyer l'abondance, etc., donc on s'adresse bien à certaines de ces midotes. Mais c'est pas du tout qu'on prie les midotes. On prie Hachem et on lui demande de faire fonctionner telle ou telle chose. Et puisque nous savons que c'est Hachem qui fait fonctionner toutes ces sphirotes, pourquoi est-ce qu'on devrait penser à ces sphirotes-là, ces midotes? On s'adresse à Hachem qui fasse les choses comme il veut, finalement. Puisque c'est bien ce qu'il fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'Hachem a enseigné les 13 midot à Moshe Rabbeinu? Le Rachamim. C'est bien pour que Moshe puisse faire fonctionner en le demandant à Hachem, bien sûr, l'une ou l'autre de ces midot. Mais Hachem, il ne les connaît pas, ces midot, il ne sait pas. Il faut qu'il lui dise. Moshe Rabbeinu, il doit dire à Hachem, ou nous, putain, on doit dire à Hachem, voilà, il fait fonctionner tel et tel mida pour obtenir tel et tel résultat. Grâce au shalom, pensez une chose pareille, bien entendu. Est-ce que Hachem ne les fera fonctionner que si nous le demandons? On peut comprendre les choses avec la Gemara dans Masechet Shabbat, là, Gemara qui raconte quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour prendre les louchot. Yehoshua ben Levi raconte, il dit que Beshach et Allah Moshe Rabbeinu Lamarom, quand Moshe Rabbeinu est monté, il a trouvé Akadosh Baruch Hu qui était en train d'attacher des couronnes aux lettres. Comme vous savez, on appelle des couronnes, c'est trois petits traits, là, qu'on a sur certaines des lettres dans le Sefer Torah. Alors, il a demandé à Hachem d'abord, quand il est arrivé, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dis-moi, chez toi, on ne dit pas bonjour quand on arrive. Bon, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu arrive là-haut, et Hachem lui dit, donc, dans ta ville, on dit pas shalom, on dit pas bonjour. Pourquoi tu me dis pas shalom, pourquoi tu me donnes pas le shalom? Alors Moshe Rabbeinu a répondu, est-ce qu'un esclave peut saluer en premier son maître? Quand on donne le shalom, c'est que donner le shalom à quelqu'un, ça veut dire qu'on veut lui faire une bracha, qu'il ait plus de shalom. Mais qu'est-ce que l'esclave pourrait bien donner à son maître? Est-ce qu'on peut te donner plus de shalom que tu n'en as? Hachem lui a répondu, Afal Piken, Ayalecha le Ozreni. Tu aurais dû m'aider. Immédiatement, Moshe Rabbeinu lui a dit, Ve'ata, et maintenant, Yigdalna Koach Hachem. Alors voilà une lettre. Que la puissance d'Hachem soit amplifiée. Kacher dibarta les mots, comme tu as dit, toi, Hachem, toi-même, que Hachem est rechapaim, rafresed, etc. Et il annonce toutes les midotes. Le maral explique. Qu'est-ce qu'elle veut, cette maral-là? Bien sûr, d'abord il faut expliquer qu'est-ce qu'Hachem était en train de faire, qu'est-ce que c'est que ces petites couronnes qu'il attachait à certaines lettres. Le Maharal dit, la Torah, hein, les lettres de la Torah expriment et nous dévoilent la volonté d'Hachem. La Torah, c'est le biais par lequel Hachem a dévoilé sa volonté. Et la Torah nous enseigne les voies d'Hachem, les façons dont il gouverne le monde. Mais les petites couronnes, là, qui viennent sur les lettres, ça dit quelque chose d'encore plus élevé. Cette couronne, elle montre au peuple la gloire du roi, la grandeur, la perfection du roi. Par conséquent, attacher les couronnes aux lettres, ça vient nous enseigner que les voies d'Hachem sont parfaites et qu'il n'y a rien d'au-dessus d'elles. Parce que mon cher Rabbeinu a vu la perfection de la direction du monde par Hachem, il a pensé qu'on peut bien ajouter. On n'a pas le droit d'ajouter quoi que ce soit. Mais Hachem lui a dévoilé que la volonté d'Hachem, c'était que l'homme s'associe, qu'il aide dans la direction du monde. Comment? Par sa prière, la prière qu'on fait à Hachem en lui demandant de faire fonctionner ceci ou cela. Alors, immédiatement, Moshe Rabbeinu a dit ok. Alors maintenant, Yigdalna, que soit agrandie la force d'Hachem, et il a commencé à dire Hachem, Erechapaim, etc. De cette manière-là, il a grandi, il a amplifié la force du Rachamim en faveur du peuple juif, en fait. Et dit le Maharal, de cette manière, Hachem n'a pas détruit le Klal Israël après la faute des Meraglim. Alors c'est un investissement ici. Le Bnei Israël, après la faute du Vaudor, ils en ont fait une autre. Elle coûtait très très cher. Et Hachem il a d'une certaine manière détruit le Klal Israël. Tous les hommes majeurs qui sont sortis d'Égypte, qui ont passé la mer, qui ont reçu la Torah au Sinaï, ils sont tous morts, sauf Yoshua et Caleb. Tous les adultes sont morts. Ça veut dire que le clan d'Israël, c'est une forme pas complète, mais énorme de destruction du clan d'Israël. C'est la faute des Meraglim. Mais si Hachem n'a pas complètement détruit le clan d'Israël, c'est à cause de ça. C'est grâce à l'association de Moshe avec Hachem. Parce que Moshe, à l'instigation d'Hachem. Mais comme Hachem lui a dit, tu devrais m'aider, il dit, ok, je t'aide. Et même si c'est impensable qu'on puisse ajouter quoi que ce soit à Hachem, puisqu'Hachem demande de le faire, alors on le fait. Il faut juste pas se tromper. Imaginez qu'on a vraiment, qu'Hachem avait un manque et qu'on a comblé ce manque. Donc, c'est un peu paradoxal. On va agrandir quelque chose qui est déjà au sommet. D'une certaine manière, on ne peut pas faire plus grand. Mais Hachem dit non, dites que ça agrandissait. On ne comprend pas pourquoi, comment ça marche.
Excusez-moi, c'est la même chose qu'on dit à Tenuaz et Lokim.
Je n'ai pas compris.
Quand on dit à Tenuaz et Lokim, c'est la même notion?
J'ai encore pas compris. Qu'est-ce qu'il y a?
On dit à Kol Tenuoz, l'Elohim, c'est, est-ce que c'est la même notion?
Oui, c'est ça, oui. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Tout à fait. Là, on comprend, Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu les 13 midot pour qu'il puisse les énumérer devant lui. Dans le détail. Et d'une certaine manière, alors, Akadosh Baruch Hu, puisque lui les a énumérés comme étant des midot d'Hachem, alors Hachem va les faire fonctionner. Bien entendu, c'est Hachem qui fait tout ça. Il savait, Hachem sait très bien comment, quand diriger chaque chose. Mais sa volonté, c'est que nous nous associons avec lui dans la gouvernance du monde. Et comment? En apprenant, en comprenant les voies d'Hachem. Quand on les comprendra, et qu'on aura compris que il n'y a que de cette manière-là qu'il faut prier et que c'est ça qui va, c'est uniquement ça qui va faire que Hachem va gouverner le monde selon notre prière. C'est ça, cette chose absolument extraordinaire qu'Hachem nous a installé comme ses associés en quelque sorte dans la gouvernance du monde. Et pas seulement ça, mais sa volonté, c'est que d'une certaine manière, nous lui proposions une façon de gouverner le monde. C'est pour ça qu'il a enseigné à Moshe Rabbeinu ses voies dans le détail. C'est ce que Chazal disent. Il dit que Seder Asher Ataroé, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu vois, tu feras exactement ce que tu as vu là. Kadosh Baruch Hu lui a enseigné le Seder, l'ordre des Midot et des façons de gouverner d'Hachem. Ces Shloshes Midot, elles ont un ordre. Alors, nous, on a la tâche d'apprendre, de connaître, de connaître dans le détail les midot, pour pouvoir, dans notre prière, demander ce qu'il faut demander. C'est-à-dire que nous devons connaître le détail et avoir confiance que ce n'est que de cette manière-là qu'Hachem désire que nous aidions, en quelque sorte. C'est-à-dire que, comme ça, on peut mieux faire, on peut vraiment demander à Hachem les choses dont nous avons besoin. Mais, bien sûr, c'est toujours Hachem qui fera, qui agira. Et c'est comme ça qu'il a décidé que fonctionnerait cette association entre lui et le clan d'Israël pour la gouvernance du monde. Ça, c'est la kavana du pasouk qui dit « Askel v'yadoa oti ». Réfléchis, connais-moi, c'est-à-dire mes voix, qui be'ele chafatzti, le haut machin. Ces voix-là, ce sont celles que je désire, que vous choisissiez, que je désire faire ça, et donc je veux que vous choisissiez ça, en quelque sorte. Comme ça, on trouvera grâce. Parce que c'est comme ça que nous nous associons à Hachem comme il veut que nous associons à lui. Et c'était ça la question de Moshe Rabbeinu. Odiye nina et drachecha leman emtzachen be'enecha. Fais-moi connaître tes voies pour que je trouve grâce à tes yeux. Parce que de la même manière, enfin, puisque je vais ainsi pouvoir faire ta volonté, m'associer vraiment avec toi, et c'est comme ça que je trouverai grâce à tes yeux. Et donc, ce qui avait été soulevé par le Zohar dont je vous ai parlé, Tikkun HaZohar, c'est vrai que nous dirigeons notre prière uniquement vers Hachem. Mais on mentionne les midot. On mentionne dans le détail, fais ceci, fais cela. Pour qu'Hachem fasse fonctionner tel ou tel mida. Parce que c'est la volonté d'Hachem de nous donner ce mérite, en quelque sorte, d'être ses associés dans le gouvernement du monde. Et par notre prière, par nos demandes, qu'Hachem fasse fonctionner ses différentes midot, chacune au moment et à l'endroit où c'est bien qu'elle fonctionne. Alors, on va dire, Marabou Chasde Hachem. Alors, ça veut dire le chesed d'Hachem à notre égard. C'est gigantesque, il nous a confié d'une certaine manière la direction du monde. Et en faisant ça, on trouve grâce à ses yeux. Pourquoi tout ça? Alors, là, on connaît un peu la réponse. Bon, c'est quoi cette volonté divine de nous associer? Pourquoi est-ce qu'il faut que nous comprenions les Yudim El Midot, etc.? Hachem a décidé que les choses vont dépendre de notre investissement dans ces Midot. Alors, le Ramchal dans Dat Vunot, il écrit, Ratsa Hashem Itbarach, Livro Nivraim, Kedesh Yuchal Leitiv Laim. Lui, il dit, le Ramchal, Kadosh Baruch Hu a créé des créatures pour leur faire du bien. Veomnam, toutefois, Kedesh Etiye Atava, Atava Shlema. Mais pour que le bien qu'il veut leur prodiguer soit un bien parfait, il faut, bon ça vous le connaissez, il faut qu'ils reçoivent ce bien qu'il leur donne sous forme de salaire. C'est-à-dire avec la avoda de la prira, à ce moment-là, d'une certaine manière, c'est comme si nous avions choisi, comme si nous maîtrisions le bien. Et du coup, en recevant le bien qu'Hachem voulait de toute manière nous donner, en le recevant comme un salaire plutôt que comme de la tzedaka, on évite le fameux Naama de Kisufa. On évite ce fameux pain de la honte. D'accord ? on a déjà souvent parlé. Lorsque tu donnes à un pauvre, tu lui permets peut-être de survivre, tu lui donnes un morceau de pain, donc il va survivre, mais suivant comment tu lui donnes, et peut-être de toute façon, quand tu lui donnes, tu lui fais honte. D'une certaine manière, tu lui fais du mal. Et Hachem qui voulait nous donner de façon parfaite, il ne veut pas nous donner, nous faire honte. Alors, il a fait en sorte que les choses apparaissent comme si nous avions gagné ce qu'il nous donne. C'est comme si ce qu'il nous donnait était sous forme de salaire. On a déjà parlé souvent de cela. En vérité, il y a encore d'autres façons de donner, ou Hachem donne, si vous voulez, et qui néanmoins sont du type Nama de Kisufa. C'est quand même ce fameux pain de la honte. Chazal disent, dans le passage que c'est marqué, V'chanoti et Asher Achon. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. Bon, Moshe Rabbeinu avait proposé quelque chose, mais Hachem lui dit, c'est moi qui décide. Je ferai grâce à qui je voudrais faire grâce. C'est-à-dire gratuitement, quoi. Bota Sha'a, Erala Akadosh Baruch Hu Kol La'otzarot. Shel Matan Sachar, Shel Metukanot La Tzadikim. À ce moment-là, disent Chazal dans les Yalkut, ils disent que Hachem a montré à Moshe Rabbeinu tous les salaires qui sont préparés pour les Tzadikim. À un moment donné, il a vu un de ses greniers, de ses trésors, en quelque sorte. Et il a demandé, et ça c'est pour qui? Hachem a répondu, Mish yesh lo, ani noten lo, misraro. Mish en lo, ani oseimo, chinam. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas de mérite, je lui donnerai gratuitement. Et la Gemara elle dit aussi, Chanoti et Asher Achon, Afalpi Sheno Agun. Je ferai grâce à celui auquel je ferai grâce, même s'il ne le mérite pas. Mais maintenant, Trinam, quand on donne quelque chose gratuitement, et en fait, c'est Hachem le fait avec le clan Israël aussi. Pas seulement à l'échelle des individus. Rashi explique sur le verset Kasavur atar she'im tamas chutavot enot tikva. Est-ce que tu penses que puisque le mérite des avot est épuisé. Il n'y a plus d'espoir, on est fichu. Dit, parce que s'il n'y a plus de srout avot, alors c'est absolument tragique. Parce que nous, c'est sûr qu'on n'a pas de mérite par nous-mêmes. Pour obtenir, grâce à nos actions, le rachamim d'Hachem. Et pourtant Hachem dit, Ani avir kol midot tuvi lefanecha, pour nous enseigner à Moshe Rabbeinu, comment il faut demander, même s'il n'y a plus de srout avot, ce qu'on avait dit au début. Tu demanderas comme je te montre. Atifat talit, Gimel Midot. Mais c'est un cadeau gratuit. Alors ça reste un amas de Kisoufa, c'est toujours le pain de la honte alors. C'est pas comme ça. Parce que si effectivement nous ne méritons pas le Rachamim d'Hachem, grâce à nos... On n'a pas fait de si bonnes choses qu'on mérite cette grâce. On ne la mérite pas. Mais quand on va mentionner devant Hachem, quel Erech Apaim, Rachum, Chanoun, etc. Alors, quand on va mentionner ça, ça voudra dire que non, ce Rachamim n'est pas épuisé. C'est-à-dire nos prières, c'est notre façon d'être associé avec Hachem. Donc, quelque part, c'est nous qui faisons fonctionner la Midata Rachamim, puisqu'on est associé. Donc, Hachem nous donne la possibilité, quand il n'y a plus de mérite des anciens, que par nos actes, on ne le mérite pas, mais nous pouvons nous donner à nous-mêmes notre part. Comme ça, il n'y a plus cette idée que c'est gratuit. C'est nous les maîtres. Quand on ne mérite pas le Rachamim par nos actions, quand vous allez mentionner ces midot devant Hachem, midot de Rachamim, donc nous avons un mérite en cela. On est associé, on aide Hachem. Et du coup, c'est plus Nahama de Kisoufa, c'est plus le pain de la honte. Puisque c'est le produit de notre travail, de notre association avec Hachem. Comme nous avons fait en sorte que ce qu'Hachem désire, à savoir nous faire du bien, nous avons permis à Hachem de le faire. Alors il n'y a plus, c'est ça notre salaire en quelque sorte. Quelque part, on permet à Hachem de nous faire un bien parfait. Et c'est ça notre mérite. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir un recours donc à quelque chose de gratuit. Donc on enlève cet argument, cette situation difficile de Nama de Kisoufa. Bon, il y aura encore beaucoup à dire, mais on va s'arrêter là, parce que